Il y a un autre aspect qui m'a interpellé en lisant le livre, c'est cet aspect, et j'y pense en vous écoutant, Anne Cornet, c'est cet aspect du peu de voyages que pouvaient effectuer les Congolais, entre guillemets évoluer ou pas, vers la métropole. Et l'année 58, et l'Expo 58 a été assez représentative à cet égard, puisque à peu près 600 Congolais sont venus à l'Expo universelle de 58, mais ils étaient encadrés comme ils l'ont toujours été. Donc pour eux aussi, la perception de la métropole était quelque chose qui était parfaitement ignoré.
Il est clair que les voyages de Congolais étaient toujours des voyages qui étaient d'abord réservés à une certaine élite, qui étaient des voyages encadrés, effectivement. Et comme on peut le voir au moment de l'exposition 58, on peut se dire qu'il y a 600 Congolais qui ont débarqué à Bruxelles. Mais parmi ces Congolais-là, il y en avait qui étaient... il y avait les journalistes, il y avait des groupes de musique, il y avait des chorales qui avaient été invitées spécifiquement dans le cadre de l'exposition. Il y avait également des leaders politiques qui étaient là. Mais donc, c'était une certaine élite qui avait été autorisée à venir en Belgique. Et lors de leur voyage même en Belgique, il y avait des écoles qui étaient organisées pour les enfants de Congolais. Donc, on avait une volonté de les encadrer et de les garder ensemble, qu'ils aient le moins de contact possible avec la population belge, en réalité. Et cela, notamment, pour éviter que ces Congolais ne développent des envies, ne par le contact avec la population belge, ne puissent politiquement développer des revendications. La Belgique, les autorités belges avaient très peur que le fait que les Congolais puissent venir en Belgique et voir la liberté finalement à laquelle aspirait dont jouissait la population belge, que cette liberté-là, eux, puissent également y aspirer et la réclamer.
Vous dites aussi, si j'ai bien lu, que ces visites de Congolais lors de l'Expo 58 ont aussi contribué à démythifier le colonisateur.
Oui, alors c'est même un petit peu antérieur, parce qu'il y a déjà eu des visites de notables. Donc ce qu'on appelait les notables, c'était des Congolais méritants. Il y en avait une vingtaine par an à partir de 52-53 environ, qui venaient faire des voyages qui étaient tout à fait balisés. On leur faisait visiter la Belgique qui travaille, la Belgique moderne, et donc toutes les réalisations de la métropole. Et c'était des doubles ambassadeurs, des ambassadeurs d'un côté qui venaient montrer en Belgique que la colonie belge réussissait son projet de civilisation et que donc il y avait dorénavant des Congolais éduqués, intéressés, cultivés. Et dans l'autre sens, ils rentraient et ils disaient, mais la métropole, c'est vraiment, les Belges sont des gens travailleurs qui ont de vrais projets, c'est une belle société, c'est une belle métropole dont nous pouvons être fiers. Et 58, effectivement, ça a été l'occasion pour un certain nombre de Congolais, parce que là, c'est la première fois qu'ils étaient aussi nombreux. Donc ça, c'est quand même une rupture.
Aussi nombreux, vous citez 600. Enfin, c'est quand même pas non plus...
Non, 600 par rapport à 20-25, ces 600, entre eux, ils se sont quand même parlé. Donc une série de leaders des partis émergents ont eu l'occasion de se rencontrer, de discuter, de confronter des réalités régionales qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'en général, un Congolais vivait dans une région et pour se déplacer, il avait un livret de travail qui devait être signé. Donc pour se déplacer, pour changer de province, pour changer de ville, on ne le faisait pas librement. Et donc c'est la première fois qu'ils ont effectivement l'occasion de discuter entre eux. Je pense que c'est surtout entre eux. C'est plus que ce qu'ils ont pu découvrir de la métropole. C'est vraiment le fait de se reconnaître, de se retrouver, de confronter leurs idées et leurs revendications.
Il faut peut-être rappeler que le Congo fait 80 fois la Belgique. Et donc, on peut imaginer qu'un Congolais du nord du pays ait difficilement des contacts avec un Congolais du sud du pays, si on y ajoute en plus les difficultés de circulation, les interdictions établies par le colonisateur.
Oui, c'est ça. C'était de véritables interdictions. C'est un des éléments qui fait partie du volet obscur de ce qu'on connaît de la colonisation. C'est que les Congolais étaient très peu libres et de leur mouvement et de leur choix de vie et de leur choix d'existence.
Oui, il y a énormément de limites aux libertés individuelles. Donc c'est d'ailleurs, je pense, la position un peu schizophrène de toute métropole, de tout système colonial. C'est que, par exemple, la Belgique était en pointe pour la défense des libertés individuelles et que le système colonial va à l'encontre de cette logique de libertés individuelles. Et donc, effectivement, jusque très tard, pendant la période coloniale, il y avait des interdits qui étaient des interdits dans tous les domaines. Donc l'interdiction de circuler la nuit, je l'ai dit, l'interdiction de déménager sans avoir un contrat de travail, des interdictions liées dans le domaine des magasins, de la santé, de la consommation, d'entrer dans les mêmes magasins ou par la même porte que les Européens. Donc par exemple, il y avait des guichets pour les Congolais dans les magasins. Les cinémas et les théâtres ne sont autorisés aux immatriculés et aux cartes de mérite civique, donc c'est-à-dire des statuts spécifiques qui n'ont concerné que quelques milliers de personnes au Congo. À partir de 55-56, ils ont accès et ils doivent montrer cette carte parce qu'il faut prouver que vous êtes autorisé. Et les autres, c'est seulement la fin de la ségrégation, c'est en 59.
Ce qui est étonnant, c'est que tout ça n'apparaît pas à la première lecture des photographies et de la propagande que l'on a. Par contre, vous parvenez à le déceler en analysant l'image. À nouveau, ce n'est pas un livre qui réécrit toute l'histoire de la colonisation, mais qui analyse à travers les photographies quelle est la réalité qui a été occultée et quelle est celle qui a été mise en évidence.
Ben, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir au-delà des photos de propagande qui étaient données à voir par les créneaux officiels, les photos effectivement de particuliers, les photos de fonds missionnaires, les photos du cinéaste André Cauvin, qui, bien qu'il ait travaillé comme propagandiste par le biais du film pour les autorités belges, il a également pris beaucoup de clichés et de clichés photographiques, et même déjà dans ses films on voit que il essaye d'insérer sa propre sensibilité par rapport à la réalité coloniale. Et donc voilà, ça nous permet de nuancer également ce que nous disent les photos de propagande. Il y a donc les fonds missionnaires, comme je l'ai dit, il y a aussi les fonds de sociétés privées, et donc ce sont évidemment des petits détails, c'est une photo par-ci, une photo par-là qui va nous permettre de nuancer ce que disent les photos de propagande, mais toutes les réalités ne sont pas non plus représentées par ces photos de particuliers, ces fonds de missionnaires, donc il manque évidemment une certaine réalité, et ça, bon, ben on ne l'a pas inventée, on ne l'a pas, elle n'est pas toujours représentée dans l'ouvrage parce qu'on a vraiment décidé de partir des photographies, et donc à partir du moment où aucune photographie ne nous montrait certaines réalités, on l'a éventuellement évoqué quand c'était vraiment un manque crucial des photographies, mais c'est certain que voilà, tous les sujets n'ont pas été nécessairement abordés.
Tous les sujets n'ont pas été abordés, et la période que vous avez choisie est aussi bien délimitée dans le temps, de 1955 à 1965. On a beaucoup parlé de la période avant 60, je m'en rends compte au cours de cette interview, mais j'aimerais vous demander, Anne Cornet, quelle est la raison de ce segment chronologique, 1955, visite du roi Baudouin au Congo, et 1965.
Bon, alors 1955, effectivement, la visite du roi au Congo qui marque une sorte d'apogée, si l'on peut dire, de chant du cygne, j'ai presque envie de dire, du système colonial. C'est aussi, par rapport au fond documentaire que nous avons exploité, donc il existe des milliers, on a vu à peu près 25 000 photographies de propagande, il en existe énormément, on a cadré aussi en fonction de l'organisme qui avait commandité les photographies, et donc Infor Congo est né en 55. C'est aussi la dernière date avant les frémissements et puis les bousculements de la période coloniale, avec les premières velléités exprimées et relayées par rapport, par exemple, le manifeste de conscience africaine, des changements par rapport au clergé de l'Église catholique, etc. Et 65, bon, c'est la fin d'une époque aussi, c'est le début d'une autre époque avec Mobutu. Donc, mais je pense que peut-être Florence peut compléter.
Mais c'est vrai que la période, bon, on a cette période 55-60 avec cet effritement progressif du pouvoir colonial, et puis une accélération dans les dernières années. Puis 60, bon, on a l'indépendance du Congo. Et puis après, on a une période entre 60 et 65 qui va être une période de crise avec beaucoup de conflits au Congo. Et on a en 65 l'arrivée de Mobutu qui va marqué une sorte de stabilisation du pays, en tout cas en apparence. Bon, après, il est certain que la période de Mobutu cache un très grand nombre de crises politiques et de problématiques tout à fait autres. Mais disons que c'est une sorte d'équilibre après une période de crise. Si je peux utiliser le mot équilibre.
En tout cas, c'est une césure claire. Donc, il y avait une marque claire dans le cheminement chronologique qui permettait de dire nous arrêtons notre livre là, ce qui ne veut pas dire que d'autres livres ne devraient pas être écrits sur la période Mobutu. Alors, j'ai une dernière question à vous poser à l'une et à l'autre qui concerne ce que cette démarche d'historienne qui travaille sur un support d'archives comme la photographie vous a apporté en tant qu'historienne ancrée dans le XXIe siècle où les images circulent tous azimuts, où de l'image existe à la fois privée, à la fois publique, et où on est inondé par ce type d'information sans avoir nécessairement les instruments pour l'analyser comme vous l'avez. Alors, est-ce que ce travail a modifié votre regard d'historienne ?
Ça, très clairement. Pour moi, c'est très clair. Je me rends compte que maintenant, quand je regarde un film ou des photographies de la période coloniale, je fais attention à toute une série de détails, d'abord dans la manière dont c'est cadré, dont c'est éclairé, dont on positionne les personnages, etc. Et ça apporte, pour moi qui suis surtout une historienne d'archives écrites au départ, et pas d'histoire orale non plus, ça m'a apporté beaucoup, mais ça m'a aussi confortée dans l'idée qu'il est impossible de faire de l'histoire uniquement sur base des photographies, parce que les silences de la photographie ne sont en réalité révélés que parce que l'on les complète par d'autres documents qui nous permettent, par exemple, le manifeste de conscience africaine. Il n'y a aucune photographie sur des événements vraiment marquants et déterminants du futur de l'histoire politique de l'État du Congo. Et ça, sans les archives écrites, ça n'apparaît jamais. Donc à la fois l'importance d'un nouveau regard sur tout ce patrimoine photographique qui est extrêmement riche pour toute cette époque, et aussi les limites de chacune des sources, que ce soit les sources écrites ou les sources iconographiques, qui apportent de l'émotion aussi.
Florence Gillet, je vous pose la même question, mais en y ajoutant l'évocation d'une photo que j'ai trouvée sidérante de Belges bruxellois, ou en tout cas de Belges blancs, agenouillés devant la statue équestre de Léopold II, place du Trône, au moment où les événements et toute la violence éclatent après l'indépendance au Congo. Une photo comme celle-là, qu'est-ce qu'elle dit à une historienne comme vous, spécialiste de cette période, enfin spécialiste de l'analyse iconographique?
C'est une photo très, très forte. C'est une photo qui met bien en avant, finalement, enfin moi qui ai travaillé sur le discours des anciens coloniaux, c'est une photographie qui résume en quelque sorte l'attachement des anciens coloniaux à leur histoire coloniale. C'est-à-dire que c'est un attachement. Il faut savoir que les anciens coloniaux étaient issus en grande majorité, on va dire, de la population francophone belge, population francophone qu'on dira de la Belgique de papa, donc une Belgique catholique, royaliste, patriote, c'est une population qui qui vient en grande partie aussi de la petite bourgeoisie, même si il y avait d'autres milieux également qui étaient représentés. Et cette vénération du souverain belge, cette vénération de Léopold II, est vraiment caractéristique de ce que les anciens coloniaux défendent comme valeur et notamment, d'ailleurs, ça a été dans les années, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu énormément de critiques à l'encontre de la période léopoldienne. Les anciens coloniaux étaient considérés que c'était des critiques qui leur étaient directement adressées, alors que c'était des critiques qui concernaient une toute autre période. Et c'est parce qu'on attaquait directement leurs valeurs, en quelque sorte, qu'ils considéraient, qu'ils prenaient ces critiques directement pour eux. Donc il y a toujours eu une vénération de Léopold II assez forte. Et là, on se retrouve au lendemain des événements de 60 dans un contexte où on leur a enlevé leur Congo, on leur a enlevé leur histoire coloniale. Et là, ils se retrouvent devant ce roi Léopold II à Bruxelles comme une...
Agenouillés devant.
Complètement agenouillés, en vénération devant cette statue. On a l'impression qu'ils sont en prière, on a l'impression qu'ils implorent presque un pardon pour ce qui est arrivé au Congo, de ce que la Belgique a fait du Congo de Léopold II, en quelque sorte, puisque c'est de Léopold II qu'est partie toute l'histoire coloniale de la Belgique. Et donc c'est effectivement une photo assez forte, mais qui montre aussi le désarroi des anciens coloniaux à ce moment-là, parce que ils rentrent en Belgique, ils rentrent dans un contexte où ils sont rejetés, où ils sont considérés par la population belge comme ayant été des profiteurs, comme ayant exploité la population congolaise, et du jour au lendemain, la colonisation devient quelque chose de mauvais. Qu'il faut oublier, alors que personne ne s'y était vraiment jamais intéressé dans la population belge, si ce n'est vraiment au moment, dans les tout derniers moments de crise. Tout à coup, la colonisation, c'est quelque chose de mauvais qu'il faut oublier. Les anciens coloniaux sont relégués à ce rang de spoliateurs, d'exploiteurs, de profiteurs. Et donc, ils sont dans ce désarroi-là où ils vont devoir reconstruire une nouvelle vie, devoir reconstruire un avenir. Ils sont perdus par rapport à leur repère, je dirais, parce que c'est ça, la colonisation, c'était leur vie, c'était leur repère. Il faut dire aussi qu'ils sont partis très très tôt. Beaucoup d'anciens coloniaux sont partis au Congo alors qu'ils avaient à peine 20 ans. Ils ont fait leurs études et puis ils ont essayé de trouver du travail. Ils sont partis là-bas, ils ont construit leur vie de famille là-bas, etc. Donc pour eux... Tout ça, la fin de la colonisation est lourde de sens pour eux, parce que c'est vraiment une rupture dans leur vie personnelle, d'où cette photo montre vraiment toute l'intensité de ce désarroi, de cette rupture,
Anne Cornet, est-ce qu'il y a une photo que vous aimeriez évoquer parmi toutes celles qui se trouvent dans cet album, qui vous a particulièrement frappé ou touché, ou dont vous avez envie de témoigner?
Alors, moi, j'ai envie de parler d'une photographie que m'a confiée un monsieur âgé qui avait une compagne congolaise pendant la période coloniale. Il y a beaucoup de photos de ces familles mixtes, de Belges et de Congolaises, dans les albums de famille, mais en général, les gens ne les confient pas parce que, encore aujourd'hui, ils rappellent les souffrances que pouvaient avoir vécues leur épouse congolaise ou leurs enfants métis, et qu'ils avaient beaucoup de difficultés à les communiquer par respect aussi pour les sentiments de leur famille. Et ce monsieur m'a confié cette photographie, ça m'a énormément touchée. C'est un ancien colonial qui a travaillé dans une plantation, qui est vraiment entré dans le système colonial, y compris avec, il me l'a dit, parfois des punitions corporelles qu'il a lui-même administrées, et qui, après l'indépendance, a beaucoup réfléchi sur toute son existence au Congo, et qui est devenu un militant tiers-mondiste. Alors ça, c'est un parcours tout à fait surprenant, mais je trouvais que c'était un vrai cadeau qu'il nous avait fait de nous confier cette photo avec sa petite-fille, et il avait aussi des photos de son épouse congolaise, mais ça, il m'a dit, je ne peux pas aller jusque-là. Et ça, je trouve que ça reflète bien, en fait, la difficulté aussi pour les anciens coloniaux de faire comprendre ce qu'ils ont vécu sur place. C'est presque un passé qu'il est pratiquement impossible vraiment de partager avec les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas vécu au Congo. Et beaucoup d'anciens coloniaux ont aussi un peu peur que des historiens ou des historiennes comme nous, qui n'avons pas vécu cette époque-là, qui n'étions même pas nés, on ne puisse jamais comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et on a vraiment fait un très gros effort sur base de ces photographies, en les croisant, en cherchant toujours des contrepoints, que ce soit aux photographies d'agences de presse ou de la propagande, d'essayer de mieux comprendre. Parce qu'en fait, l'historien n'est pas là pour juger, pour dire c'est bien, c'est mal. Il est là pour essayer de comprendre et de faire comprendre. Et on a essayé de faire ce travail pédagogique, on espère.
Anne Cornet, je propose qu'on termine cette interview sur ce témoignage en, en miroir, en quelque sorte, de ce colonial qui vous a confié cette photo. Florent Gillet, je vous remercie également pour cette interview et pour ce livre, qui est un livre dont, qu'on a abordé dans cette interview, finalement, que quelques petits chapitres, et qui est vraiment un livre que je recommande chaleureusement pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'analyse iconographique, au Congo, à l'histoire de Belgique. C'est vraiment un livre tout à fait remarquable, paru à la Renaissance du livre en coédition avec le CEGES, où l'une et l'autre vous êtes historienne. Le livre est préfacé par François Reckmans et s'appelle « Congo-Belgique entre propagande et réalité 1955-1965 ». Merci Anne Cornet, merci Florent Gillet.
Merci beaucoup.
Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.